Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Hospitality, le podcast qui décrypte avec vous les visions de différents acteurs qui font bouger notre secteur de l'hôtellerie-restauration. Avec pour vocation l'inspiration, je vous invite à me suivre, moi, votre hôte Mathilde, à travers mes échanges spontanés avec différentes personnalités. Je vous propose aujourd'hui d'approcher de plus près le monde culinaire avec mon invitée Émilie Christofari, qui est une jeune diplômée de l'Institut Paul Bocuse. On aborde avec elle les études dans les arts culinaires, la mission des acteurs de la restauration aujourd'hui, l'expérience inédite aussi qu'elle vit chez Alain Passard à l'Arpège et son amour pour le produit de qualité. On approche donc de plus près le métier de cuisinier et plus particulièrement au féminin, puisque Émilie a à cœur de démontrer la place de la femme en cuisine aujourd'hui. Je vous laisse donc sans plus attendre avec ma conversation. Bonjour Émilie.
Bonjour Mathilde.
Bienvenue sur le podcast Esprit Hospitality. Je suis tout à fait ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler un peu cuisine, restaurant et parcours culinaire, puisque tu as fait, comme moi, l'Institut Paul Bocuse et tu as fait plutôt des grandes maisons dont tu vas nous parler. Tu es passée notamment chez Alain Passard. Alors, est-ce que, premièrement, tu pourrais te présenter et nous dire d'où tu viens, pourquoi tu apprécies la cuisine et pourquoi tu as décidé de te lancer dans cette carrière professionnelle?
Alors, en effet, j'ai fait l'Institut Paul Bocuse. J'ai fait le bachelor art culinaire et management de la restauration sur 3 ans. J'ai terminé du coup donc cette année avec, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Alain Passard à l'Arpège à Paris, à la suite duquel j'ai été embauchée. Donc je suis officiellement en fait en CDI depuis décembre. J'ai fini mon stage en novembre.
Alors j'aimerais savoir déjà comment tu en es venue à vouloir faire une école dans la cuisine et pourquoi t'orienter vers les métiers culinaires. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qui t'a plu directement dans la cuisine? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait sentir dès le départ que quand tu arrivais à l'école, c'était vraiment fait pour toi et que tu t'étais pas trompée?
C'est le combat aussi que je mène aujourd'hui, c'était le produit. C'est-à-dire d'arriver en cours de cuisine et de déballer le chariot des ingrédients et de voir la qualité des produits, la fraîcheur des poissons, de la viande, des choses comme ça. Et là, je trouvais ça exceptionnel.
Quand tu dis c'est mon combat encore aujourd'hui, parce que tu as des responsabilités spécifiques dans ta cuisine, je veux dire, de tous les jours, je veux dire, tu soutiens vraiment une cause?
Ouais, entre guillemets, en gros... c'est pourquoi je fais de la cuisine aujourd'hui et c'est pourquoi je me bats contre tous et pour éduquer les consommateurs, une personne lambda, n'importe qui, au entre guillemets bien manger. Qu'est-ce que le bien manger veut dire? J'estime que nous cuisiniers, restaurateurs, ces gens-là, on est des gros acteurs, on a un gros enjeu sur ce domaine, sur ce sujet-là.
Bien sûr. Qu'est-ce que ça signifie alors pour toi, bien manger?
Alors, c'est très long, mais bon, pour moi, le bien manger, c'est tout d'abord choses banales, c'est-à-dire manger de saison, manger local, manger frais. C'est avant tout, respecter les saisonnalités, et bon, c'est ce pourquoi aussi je travaille chez Alain Passard, c'est tout ce respect du produit, de dénaturer au moins possible, de respecter la tomate c'est en été, que la framboise c'est en été, et que on va retrouver le potiron en automne, le céleri rave en hiver. C'est pour moi, j'ai envie de respecter tout ça, et c'est primordial, surtout avec les enjeux écologiques, économiques et tout ça, qui sont très actuels.
Oui, et surtout avec ce qu'on vit aujourd'hui, le fait que l'alimentation a vraiment un impact aussi sur notre santé, je pense que c'est quelque chose
totalement
que vous devez faire passer.
Totalement d'accord. Et et pour moi, j'ai l'impression que, étant dans ce milieu, je me dois de respecter tout ça. Et de faire vivre nos petits producteurs locaux qui sont juste extraordinaires, La grosse question aussi sur la viande. Faut-il manger de la viande? Oui, non, pourquoi? Pas assez? En quelle quantité? Pour moi, sur ça, mon avis, c'est que oui, la viande, il faut en consommer. C'est très important pour la santé. Notamment grâce à une vitamine, la vitamine B12 qui se trouve dans la viande, et qui ne peut pas, qui est très dure à substituer, et qui est primordiale pour notre santé aussi. Qui vont manger parce que, on a des petits producteurs, des éleveurs français qui font un travail d'exception tous les jours à nourrir leurs bêtes, à leur apporter plein d'amour, et contrairement à ce qu'on peut penser, oui, il y a des producteurs qui ne font pas que abattre en quantité leurs animaux pour manger, pour produire et pour avoir un gros rendement. Il y en a aussi qui les élèvent dans l'amour et dans le bien-être, et c'est aussi pour l'amour du produit que je trouve que c'est important. Voilà, la viande, se faire un beau morceau de viande à table avec un beau canon, ça met tout le monde d'accord. Et du coup, non, enfin voilà, c'est, moi je pense que c'est juste une question de logique pour moi et d'être raisonnable. Il faut manger de tout en petite quantité et savoir ce qu'on a dans l'assiette, quoi. Savoir combien, encore une fois, quand je vois que on va dans les écoles primaires et on pose les questions aux enfants de savoir comment pousse tel légume, comment est fait telle chose ou quoi que ce soit. Et que les enfants sont incapables de nous répondre, mais alors que c'est la base de ce qu'on est, se nourrir, c'est survivre, c'est vivre, c'est primordial. Et pour moi, c'est une éducation, c'est une éducation à refaire. C'est tout ça, et c'est mon gros combat.
C'est notre combat de notre génération, je pense aussi.
Ouais, exactement.
De voir changer un petit peu les mentalités que pouvaient avoir les générations précédentes par rapport à ces nouvelles manières de consommer, finalement.
C'est ça, exactement. Et puis c'est très dur d'éduquer tout le monde parce que après, il y a les sujets aussi économiques. Un étudiant, ça va être difficile. On dit toujours, si on va
à faire adhérer. Et concrètement, au sein de la maison à l'Arpège, comment vous mettez en place justement toutes ces valeurs et comment vous soutenez tout ça? Parce que j'imagine que c'est des valeurs partagées que tu as apprises notamment là-bas.
Il y a Alain Passard qui est un chef 3 étoiles qui est au restaurant qui s'appelle l'Arpège. C'est un chef qui a décidé en 2001 de retirer la chair animale de sa carte, de son menu, et qui a décidé de remettre au centre, de valoriser le légume sous toutes ses formes, mais de reprendre les légumes et de plus en faire seulement un accompagnement, mais un plat principal, excuse-moi. Et donc c'est très intéressant. Il a 3 potagers aux alentours de Paris. Il en a un en Normandie, un dans la Sarthe et un au Mont-Saint-Michel. Tous les jours, vraiment tous les jours, on est livré les jardiniers nous livrent les légumes qu'ils ont cueillis le jour même, le matin même. Et c'est à chaque fois la surprise. Et c'est à chaque fois des bonnes surprises parce que on sait pas trop en fonction des quand les nouvelles saisons arrivent, dans les mi-saisons, etc., qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer. Et c'est passionnant parce que c'est vrai que des fois c'est la particularité de ne pas avoir de carte, c'est-à-dire que le menu, il y a un menu qui s'appelle menu carte blanche, et le chef qui décide de qu'est-ce qu'on va cuisiner à midi, qu'est-ce qu'on va faire comme plat.
C'est vrai que ça doit être assez incroyable de pouvoir être livré tous les jours de produits frais qui proviennent de terres finalement qui vous appartiennent entre guillemets, puisqu'elles appartiennent à Alain Passard, donc vraiment de pouvoir cuisiner les produits que vous avez tous les jours comme ça et qui sont d'autant plus de saison et français.
C'est une chance, c'est une chance extraordinaire, notamment parce qu'on a des jardiniers d'exception qui connaissent la terre comme personne, qui apportent tellement d'amour à tous leurs légumes, et que du coup, nous, on reçoit ça, et c'est vrai que, je t'avoue que maintenant, manger une tomate mais pas de du jardin, enfin manger une tomate du supermarché ou quoi, je n'y arrive mais plus du tout. Ou alors pour en perdre, voilà, c'est moi, enfin les légumes quand ils sont, voilà, quand ils sont de saison, quand voilà, quand on a les apports nécessaires pour se développer et grandir et s'épanouir, et ben c'est un tout autre légume. C'est comme la il y a des plats très connus comme le carpaccio de navet. Et ben ça paraît fou, mais voilà, c'est un navet qui est juste coupé très finement et juste assaisonné et c'est divin. Et c'est et pourtant c'est un navet. Et le navet, c'est quand même assez réputé pour être un légume pas totalement apprécié par tout le monde. Donc voilà, le produit en lui-même se suffit quand il est bien payé.
Donc finalement, vous ne faites qu'embellir et donner encore plus d'amour à tous ces produits qui sont déjà magnifiques.
Oui, entre autres, ouais, un peu, ouais. C'est vrai que c'est puis c'est vraiment une chance qu'on se rend compte que, alors je suis un peu corporate, hein, un passard, et que voilà, c'est, mais la nature a tout écrit en soi, et je trouve ça vrai. Pourquoi on était des fraises, c'est du melon parce qu'il fait chaud et qu'on a besoin de s'hydrater et qu'on a besoin de fraîcheur. Alors pourquoi en automne ce serait des courges et tout ça? Bah parce qu'on a besoin de légumes un peu plus réconfortants, on rentre dans le froid, tout ça. C'est la nature a tout écrit. On n'a pas besoin de voilà, et tout est phrase à l'impasseur, mais tout est dans la casserole, quoi. Tout se rencontre dans la casserole et c'est beau. Et c'est voilà, ça peut paraître un peu ridicule de s'épanouir autant avec des légumes, mais c'est magnifique.
Non, mais c'est vrai, en plus, c'est une réflexion qui a du sens, je trouve. Est-ce que il y a d'autres choses comme ça que tu as pu apprendre depuis tes un an là-bas? Est-ce qu'il y a des choses qui vraiment t'ont marqué pendant ton travail auprès de Alain Passard? Des choses dans l'ambiance, des choses dans le restaurant, en plus de toute cette connaissance finalement un peu plus philosophique.
Ouais, après il y a tout le côté donc qui est très important dans la cuisine et dans le monde notamment de l'hôtel-restauration, qui est on parle souvent de l'ambiance en cuisine, c'est réputé pour être un métier qui est très dur, qui vous fait beaucoup d'horaires, etc. C'est vrai que je peux pas mentir. Oui, c'est un 3 étoiles. Oui, il y a de l'exigence. Oui, il y a un peu de pression, forcément. Voilà, on vend des menus à entre 200 et 400 euros en fonction des saisons. On se doit d'être irréprochable face aux clients. Oui, on fait beaucoup d'heures, mais l'Arpège, c'est quand même une maison où j'en ai rarement vu, avec une aussi belle et bonne ambiance, avec une équipe jeune, avec, pour le côté management ou quoi que ce soit, qui est super. C'est vraiment un plaisir à chaque fois d'aller travailler là-bas. Et pourtant, j'ai fait d'autres maisons en stage, notamment j'étais chez Régis et Jacques Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid, mon premier stage, qui a été un peu plus dur, bon, du fait aussi que je connaissais pas du tout la cuisine et que c'était mon premier stage dans un étoilé. Donc,
ta première expérience.
Mais, ouais, et la deuxième expérience, j'ai fait au Ritz, à Paris, en pâtisserie, cette fois-ci. J'ai voulu tester un peu la restauration de Palace, voir un peu à quoi ça ressemblait, grosse structure, et c'est une formidable expérience aussi avec un chef, François Perret, qui est exceptionnel dans son travail, qui est humble, quelqu'un super.
Donc finalement, t'as fait que des belles maisons.
écoute, je me suis dit que les stages, j'avoue que je me suis dit les stages, c'est fait pour apprendre, et j'ai voulu un peu découvrir choses diverses.
Comment t'as fait finalement pour rentrer dans toutes ces belles maisons? Est-ce qu'il y a des techniques particulières pour pouvoir aller apprendre auprès de chefs comme ça, ou enfin de chefs aussi connus, je veux dire?
Je dirais juste l'envie, la volonté. Enfin, voilà, si on a juste un peu envie et un peu d'apprendre, puis se rendre compte aussi que j'ai eu la chance de travailler, enfin de juste voir. Alors bon, l'Arpège, voilà, j'y travaille maintenant, mais je pense à c'est Jacques Marcon, une maison où j'y étais que 4 mois, mais où j'ai eu la chance d'être, de voir ces cette maison, de voir, de faire partie juste pendant 4 mois, mais de cette équipe, de juste de prendre tout ce qu'on a, voilà, à apprendre et de profiter, entre guillemets, même si c'est bon, enfin voilà, c'est un terme qui est un peu...
Non, mais profiter dans le bon sens du terme.
Oui,
profiter,
exactement.
Et juste apprendre le plus possible et être hyper à l'écoute et vraiment absorber toutes les connaissances que tu peux absorber.
Ouais, je trouve, ouais, voilà, c'est vraiment, je me dis, si, puis c'est, donc c'est vrai que c'est des maisons qui sont dures, mais en même temps, ce sera pas à 30 ans que enfin voilà, c'était là, je devais le faire maintenant pour moi, c'est quand je suis jeune et encore avec voilà, la santé et c'est maintenant que je devais le faire. Donc voilà, après non, enfin j'ai postulé totalement par un bon, je sais avec Marcon, j'avoue, je faisais des extras en première année. J'ai beaucoup d'extras pour un chef qui s'appelle Philippe Gauvreau à Lyon. Qui a un restaurant qui s'appelle Daddy Poule à Tassin, et puis c'est ce chef connaissait Ravis Marcon, et donc c'est vrai que voilà, j'ai été un peu aidée, mais sinon après, enfin l'institut, nous, voilà, on a quand même un petit réseau avec l'institut qui est sympa, on peut pas le nier. Non, sinon c'était juste, voilà, j'avais envie, puis je me dis bon bah postule, et puis y a rien à perdre, si c'est pas pris c'est pas pris, si on repart, y a tellement de maisons, de belles maisons en France. Voilà, et puis aussi, voici ouais, puis je me suis dit aussi au début, quand je suis rentrée à l'institut, je m'étais dit mais je vais partir voyager, je veux apprendre du monde entier, quoi que ce soit, et je me suis rendu compte qu'en fait notre terroir était tellement beau, enfin que il y avait déjà tellement à apprendre en France que pourquoi voilà, pourquoi, enfin j'aurais tout le temps de partir après, mais je me dois d'apprendre les bases de la cuisine française. Ça fait un peu rustique, mais voilà, c'était pour moi.
Non, mais tu as raison aussi. C'est vrai qu'il faut déjà apprendre de ce qu'on a, nous, ici, ouais, pour ensuite voilà, aller comprendre les autres cultures et puis finalement les associer à ce qu'on peut déjà connaître de chez nous.
Ouais, et puis c'est surtout aussi une histoire de partage. Quelqu'un qui va m'apprendre la cuisine de chez lui, bah, moi, je vais pouvoir aussi lui apprendre, voilà. Alors que s'il n'y a rien à échanger, la cuisine, c'est ça, c'est l'échange, c'est du... c'est tout ça, mais c'est vrai que voilà, je comment je suis arrivée à faire ces maisons, je sais pas si c'est de la chance.
Typiquement à l'Arpège, quand tu étais dans ta recherche de stage, oui, pourquoi tu t'es dit mon stage, donc c'était ton stage qui allait être déterminant finalement?
Oui, enfin oui bien sûr, ouais.
Donc, comment tu t'es dit vraiment, c'est là-bas que je veux aller, peut-être qu'après, ça pourra déboucher, bon, bah, comme maintenant, sur un CDI, je compte quand même y rester un certain temps. Comment on choisit vraiment cette maison dans laquelle on va rester longtemps? Parce que, comme tu le disais, c'est quand même dur, c'est du 3 étoiles,
oui,
il faut avoir la motivation.
Ben, c'est simple, j'ai allié, en fait... bah plusieurs choses, donc notamment la première, c'était simplement Alain Passard, pour moi c'est quelqu'un que voilà, que j'adorais, c'est un exemple, quoi, je veux dire, mais sa cuisine c'est fantastique, ben et puis c'est tout ce côté aussi éducation dont on parlait, de voilà, bah le légume, qu'est-ce que c'est, où ça pousse, comment c'est fait, pourquoi le marie avec telle autre saveur, qu'est-ce que ça donne, tout ça. Donc voilà. Deuxième chose, c'était de me dire bon, allez, troisième stage, je vais pas. Enfin, pour moi, je devais de refaire une autre maison de 3 étoiles. Je voulais repartir un peu dans le dur, entre guillemets, en me disant allez, j'aurai tout le temps de relâcher plus tard. Bon, façon de parler, hein, évidemment. En restauration, qu'on soit n'importe où, c'est comme ça, reste dur. Et puis aussi, troisième chose, c'était c'était Paris, c'était le lieu, simplement parce que pour moi, Paris, c'est alors bien que Lyon, on dit que ce soit la capitale gastronomique, Paris, il y a quand même tout. Et je trouve que c'est quand même un passage plus ou moins obligatoire pour les métiers de bouche. Tout s'y fait, on y voit tout. Voilà, et puis c'est aussi, enfin, le rythme parisien. Ça, je m'en suis rendu compte après, hein, forcément, mais. Voilà, ce rythme métro boulot dodo
qui est vrai.
Voilà, c'est un avantage, mais bon, c'est vrai, et je trouve que c'est quand même important de le vivre, je pense, dans notre métier, pour savoir voilà ce qui est dur, ce retour un peu à ben voilà, C'est triste de dire ça dans une période où une actualité où justement on est voué au changement et à casser tous ces codes du patriarcat, etc., de gastronomie, etc. Mais au final, moi je pense que c'est peut-être bon d'y passer au moins une fois, voir un peu voilà, ce côté dur. Puis bon, bah, c'est actuel où il faut casser justement ce côté hiérarchique, entre guillemets, en cuisine, où maintenant ça. L'image de la cuisine est beaucoup plus saine, entre guillemets, beaucoup plus cool, beaucoup plus détendue, qui est très important. Et puis c'est avec surtout aussi, qui est très positif, l'image de la femme dans la cuisine. Enfin voilà, faut quand même en parler. C'est quand même
C'est ce que
important
j'allais te
de, voilà,
demander. Comment
de...
c'est d'être une femme en cuisine, surtout dans des grandes maisons comme tu as pu en faire?
Ça peut ne pas être facile sur certains moments, bien sûr, c'est pas facile ou quoi. Après, j'ai pas envie de, voilà, de non plus, je fais pas trop partie de ce clan qui dit, ah, les hommes sont tous méchants en cuisine et puis c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes, etc. J'avoue que j'ai fait deux, trois maisons où c'était limite, mais ça évolue grandement et heureusement d'ailleurs, et heureusement. Mais tu vois, par exemple, à l'arpège, on est quand même, si, pas de bêtises, 6 filles sur 20, et ce qui est déjà beaucoup et super pour un 3 étoiles comme ça, quoi. Et puis il y a de plus en plus de femmes chefs qui montent et en grade et qui sont top, enfin, mais c'est et heureusement, quoi.
Oui, heureusement. Et les recrutements sont faits directement par Alain Passat ou ça passe par quelqu'un d'autre?
Ça où je ne vais pas m'aventurer dans un domaine, voilà, mais moi j'ai été recrutée en tout cas par le sous-chef, le second, Anthony Beldroga.
D'accord. Ok. Parce que lui, donc Monsieur Passat, le chef, il n'est jamais avec vous tous les jours en cuisine?
Il est toujours au restaurant. Maintenant, il est un peu plus en salle, c'est-à-dire qu'il y a tous les services, il est vraiment avec les clients, de savoir comment ça s'est passé. Voilà, il est vraiment en salle pour avoir les avis, enfin voilà, pour partager avec les clients.
D'accord, pour les explications et pour accueillir et partager, accueillir les personnes.
Exactement, exactement. Mais il est toujours là, par contre.
Oui, vous avez une proximité quand même avec lui.
Ah oui, c'est quelqu'un qui est très accessible, qui est facilement abordable et c'est quelqu'un de généreux, quelqu'un de gentil. Et voilà, contrairement, je sais, à l'image que certains chefs étoilés peuvent renvoyer à Alain Passard, c'est quelqu'un qui est très proche de ses employés. J'ai eu la chance notamment d'aller avec lui, de partir avec lui pour des événements à l'étranger. Il y a beaucoup d'événements à l'étranger. J'ai eu la chance de partir en Italie avec lui et à Saint-Tropez pour de deux événements. Et je devais partir notamment à Punta Cana fin mars, mais à cause du coronavirus, ça ne s'est pas fait.
Annulé du coup.
Mais voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un qui offre beaucoup d'opportunités à ses employés, si on veut ou quoi.
Et qui est finalement quelqu'un qui forme très bien aussi de ce qu'on peut entendre sur lui.
Ah ouais, ben moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris en effet en un an, j'ai l'impression d'avoir toutes mes connaissances, mes pratiques, voilà, la rapidité, tout ce qu'on peut acquérir. Ben, de toute façon, ben, je pense qu'après ça c'est des choses qui s'améliorent tout au long d'une vie de cuisinier, quoi. C'est jamais rien qui est acquis. C'est un passard, c'est vrai que je me rappelle d'avoir de mon premier service, que j'ai vu le coup de feu, le fameux coup de feu à l'arpège. Je crois que je m'en souviens de toute ma vie. C'était impressionnant. C'est donc l'arpège en plus c'est une toute petite cuisine, vraiment comme dans des cuisines parisiennes, mais c'est vraiment tout petit. C'est un gros fourneau et puis tout ce autour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passe. Les assiettes se dressent directement sur le fourneau. Voilà, on pourrait croire. Enfin, moi, tout dire, j'ai rien compris au service promis. C'était un enfer limite parce que j'étais perdue. C'était horrible. Mais en même temps,
T'étais seulement là pour regarder sur le premier service quand on arrive justement au tout début.
ouais, en fait, alors que bon, comment ça se passe, être stagiaire à l'arpège, c'est quand même un sacré job parce que c'est vraiment la définition du stagiaire par excellence. C'est-à-dire qu'on arrive à leur pèse et puis on nous montre la cuisine qui est à l'étage. Et en fait, au sous-sol, il y a la pâtisserie et en fait un espèce de petit labo où se regroupent les stagiaires pour laver les légumes, éplucher les légumes, nettoyer les légumes. Voilà. Enfin, c'est vraiment la définition. On lave le fourneau, on fait le ménage, on récure pour les autres. Enfin, tout ça, tout ça. Mais qui sont, enfin, pour moi, qui sont des tâches, voilà, essentielles. On ne devient pas non plus, enfin, voilà, c'est pas, on ne devient pas chef de parti du jour au lendemain, quoi. Et c'est pas parce que je sors de l'art du Paul-Bocuse que
je... Mais tu vois vraiment, tu te vois monter les échelons ensuite dans ce genre de maison, quoi.
Ouais, complètement. Et puis, c'est vrai que, et c'est aussi une maison, enfin, ce que j'ai l'impression, moi, c'était que tout était plus ou moins au mérite. Et ça fait plaisir. C'est pas parce que tu es un tel ou un tel que tu t'appelles machin chose ou autre que de suite tu peux monter ou quoi. Pour accéder au service, ben j'ai cette impression assez plaisante de bon, ça se mérite quoi. Il faut être là, il faut en vouloir, il faut mériter sa place. Et c'est vrai que c'est donc voilà moi, les premiers mois mes mois de stage pas tous les 6 mois, enfin pas 6 mois entiers heureusement, mais je me suis retrouvée la plupart du temps au labo en train de avec l'arrivée des légumes, la salade, hop, enfin tout ça, écosser les petits pois, toutes les tâches qu'on peut connaître, que tout le monde déteste, voilà. Ben là on les fait quoi, on n'a pas le choix. Et puis on lave, enfin voilà, c'est au début on voit pas du tout le service quoi. On voit pas du tout ce qui se passe en haut. Et c'est vrai que la première fois où je me rappelle Marine, enfin l'ancienne l'ancien chef de parti qui m'avait dit mais viens lui regarde faut que tu montes là tu observes. Oh, alors moi j'avais les yeux écarquillés de partout et j'en voyais partout et je me disais mais waouh ils sont trop forts quoi. Et puis au final après voilà au bout d'un an je comprends un peu mieux mais c'est impressionnant voir un service à l'arpège parce que c'est des services voilà, on sert entre 12 et 18 plats par personne, avec souvent, donc il y a 5, enfin ouais, ça va entre 40 et 70 couverts, on va dire, au grand maximum.
Oui, donc ça envoie quand même.
Et ouais, voilà, quoi, ça envoie, et puis dans un espace tout petit, et avec des choses très simples, et enfin, c'est. Là, encore une fois, il n'y a pas de choses préparées, c'est le légume brut et hop, c'est-à-dire que avant le service, que voilà, chacun prépare son bac de légumes, entre guillemets, voilà, il va chercher dans la chambre froide où il y a tous les légumes et il prend, selon qu'il a envie. Et il prépare ses petits légumes, mais sans les travailler plus que ça, c'est simplement, il enlève la terre qu'il y a dessus ou, enfin, voilà. Et puis, dès qu'un plat est réclamé, hop, il prend son légume cru, il le fait cuire. Et puis il l'envoie. Il n'y a pas de voilà, c'est pas tout est déjà pré-cuit ou quoi. C'est
tout. Finalement, c'est tout au feeling.
Tout au feeling. C'est ça, tout au feeling. Pareil pour les viandes et les poissons. Il faut savoir qu'il n'y a pas de sonde, que ce sont deux gros fours à gaz de chaque côté du fourneau. Un pour la viande, un pour le poisson. Et puis voilà, c'est des sols en pierre ou choses comme ça qu'on met dans le four. Et puis, enfin, moi, ça m'impressionne à chaque fois, quoi. Quand le chef, il ressort et qu'il s'installe et cuit parfaitement, sans sonde, sans avoir son timer, sans rien, quoi.
Ouais, en fait, c'est vraiment de l'expertise et apprendre ouais, sur le long terme, ça. Connaître par cœur tous les process et chaque produit, finalement. Exactement.
C'est ça. Et ça vient, pour moi, de, ben voilà, d'avant tout, connaître son produit, connaître la matière qu'on travaille et bon, bien sûr, l'expérience, hein, forcément, moi, je ne serais pas capable de le faire, mais voilà, c'est impressionnant à voir et c'est incroyable.
J'imagine. Et concrètement, qu'est-ce que tu attends d'une expérience comme celle que tu es en train de vivre justement à l'Arpège? Comment tu te vois en sortant de cet établissement?
Alors, comment... Ben, écoute, j'espère déjà avoir progressé au niveau culinaire, forcément, avoir appris tout ce que j'ai pu apprendre. Enfin, voilà, prendre tout ce que j'ai à apprendre et du coup ben partager tout ça plus tard avec les différentes personnes avec qui je travaillerai justement voilà en savoir plus sur le légume comment le travailler de respecter les produits de
parce que toi tu te vois de même
tu te vois aussi te spécialiser dans le culinaire du légume ou pas du tout?
Alors, non, pas spécialement. J'aime beaucoup trop la viande et le poisson. Enfin, voilà, je trouve ça, c'est quand même important pour le plaisir, simplement, d'avoir ça dans une carte. Mais voilà, c'est pour ne pas négliger de légumes et simplement aussi, ça me prend vachement sur les saisonnalités. J'ai découvert plein de légumes que je connaissais pas. C'est aussi voilà, qu'est-ce qui pousse à tel moment, pourquoi ça pousse, comment ça pousse. Et parce que le but ultime, oui, forcément, c'est de plus tard d'avoir mon propre restaurant et d'avoir un potager au sein de mon propre restaurant. C'est un peu utopique, mais enfin, quoi que je l'espère vraiment, mais c'est d'avoir un peu dans la passeur qui me
dit. Oui, c'est de belles inspirations que tu as eues déjà en tête, donc forcément, ça donne envie de refaire la même.
Ouais, et puis c'est toutes les associations de saveurs aussi que j'ai apprises, que j'apprends chez un passeur, quoi. Pourquoi on marie la pomme avec l'oignon, enfin je sais pas, tout peut se faire.
Et quels seraient les passages obligatoires que tu as encore à faire dans ta carrière prochaine, proche, lointaine? Je sais pas, ça peut être aussi des expériences à l'étranger, ça peut être des choses que tu sais que tu dois faire et ta petite checklist en fait que tu aimerais potentiellement partager.
Alors ça, c'est une bonne question. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais aller et enfin je pense que après l'impasseur je pense que je me dirigerai plus vers des restaurants un peu plus bistronomiques parce que bon c'est vrai que là j'ai fait comme que des étoilés mais j'avoue que j'ai plus envie de voilà des étoiles enfin ça me fait pas du tout on pourrait croire que voilà
ça c'est trop traditionnel
j'adore le traditionnel etc mais je sais pas trop comment définir ça. C'est vrai que j'ai envie de découvrir autre chose. Les étoiles.
Tu cherches le plus décomplexé, peut-être.
Sûrement. Ouais. Je cherche quelque chose de décomplexé, mais en même temps, travailler avec de la rigueur. Je pense que c'est vrai que, ouais, voilà, j'ai plusieurs chefs qui m'inspirent, mais je pourrais juste te dire que ça serait pas un étoilé. En tout cas, plus étoilé et quelque chose de plus décontracté.
Est-ce qu'il y a des endroits auxquels tu penses en particulier ou pas du tout?
Et ces restaurants comme qu'on appelle Néo Bistro, un peu que j'aime beaucoup. Je pense notamment à Alexia Duchesne, qui est une ancienne candidate au Top Chef, mais que j'ai pas du tout connue sur Top Chef, mais que je suis parce qu'elle a ouvert son restaurant Dacha à Paris très récemment. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est tous ces petits restaurants
qui sont un peu décomplexés, un peu secrets et finalement qui offrent plus, qui offrent de l'expérience aussi, je pense.
Exactement, qui offrent voilà une expérience culinaire qu'on ne connaît pas forcément, avec des associations de saveurs, des choses qui vont nous rester. Mais en même temps, en étant dans des contrastes, en n'étant pas dans la prise de tête, casser un peu les codes de la cuisine traditionnelle, mais en restant centré sur le produit, sur ce que je veux avant tout, c'est que mes clients, quand ils rentrent dans mon restaurant, c'est qu'ils soient heureux, tout simplement, qu'ils aient bu une bonne bouteille, qu'ils aient mangé un bon plat assaisonné, un peu travaillé, mais pas non plus dénaturé, qu'ils aient trouvé tout le monde sympa et qu'ils repartent et qu'ils disent « Ah, cette soirée, je m'en souviendrai ».
Est-ce que tu penses qu'on est dans un tournant un peu gastronomique culinaire en France, aussi avec les modes de management, etc. Est-ce que vraiment tu penses que tout ça est voué à changer aussi avec la crise qu'on vit au niveau des restaurants?
Alors j'avoue que j'ose espérer du moins, en tout cas. Je pense qu'on a déjà pris le tournant, que le tournant a déjà pris au niveau du management. Ça, je pense que voilà, c'est fini, c'est maison. Ou
justement, on monte des échelons.
Ouais, voilà, je pense que tout ça c'est terminé, ou la reconnaissance de la femme, elle s'est fait de plus en plus. Hein. Maintenant, je sais pas, j'aimerais penser que, en effet, on prend aussi un tournant par rapport à tout ce qu'on parle du produit, de la prise de conscience, de ce qu'on mange, ou quoi que ce soit. Mais pour moi, il y a encore trop de confusion entre des gens qui prônent tout ça, mais qui qui achètent quand même des mangues, des, enfin voilà, des avocats, des bananes, tout ça, qui sont pas du tout, voilà, qui écologiques. J'aimerais beaucoup espérer, mais bon, quand je vois encore trop de que les gens achètent au supermarché, comme on se remplit l'Arcadie, ben, ça me fait peur. Donc voilà. Mais bon, allez, on va rester positif et je vais dire que oui, on va essayer de changer tout ça.
On va faire un appel déjà. Soyez ouais, plus responsables dans vos consommations.
Non, c'est sûr. C'est puis bah, pour une anecdote, parce que c'est vrai que c'est un truc que je donne beaucoup, mais je prends l'exemple souvent du yaourt. C'est vrai que je me suis mis à faire mes propres yaourts, acheter une yaourtière et puis voilà, j'achète mon lait et je fais mes yaourts et je me suis rendu compte que c'était meilleur. Enfin, au niveau du goût, je préfère. Et deuxièmement, je sais ce que je mets dans mon yaourt. C'est-à-dire que je sais d'où vient mon lait. Et je sais que j'y rajoute juste des ferments lactiques. Et qu'il n'y a pas 18 colorants. Et voilà. Et troisièmement, bah, économiquement, c'est tellement plus intéressant. C'est-à-dire que ma bouteille de lait, je l'achète allez, 3 euros pour faire 12 yaourts. Donc, je sais plus, j'avais calculé, mais enfin.
C'est juste l'investissement de la yaourtière qui, au final, est très vite voilà. Rentabilisé.
Mais qui est très vite rentabilisé, quoi. Parce que. Et tout ça pour dire, ça veut voilà, 25 centimes le yaourt, sur les 12 yaourts. Donc, rien à voir avec les yaourts qu'on trouve en grande distribution, les 4 yaourts à 5 euros, quoi. Pour des marques un peu sympas, bas de gamme. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'il y a des solutions. Et il faut commencer à réfléchir, à avoir voilà tout ce bon sens sur les yaourts, mais c'est surtout c'est voilà faire sa lessive, faire après on peut être dans la pousse à l'extrême, mais voilà réfléchir à tout ça et pour moi je pense qu'on peut y arriver.
Est-ce que tu as des inspirations un petit peu au quotidien, donc bien sûr comme tu nous l'as un petit peu cité des chefs forcément, mais ouais. Autres autour de toi, donc ça peut être aussi des personnes, mais aussi des choses que tu fais au quotidien, écouter des podcasts, lire des livres, mm-hmm. Regarder des documentaires, des choses comme ça. Est-ce que tu as des choses à partager?
Écoute, j'essaye de me renseigner au maximum. J'avoue que j'aime beaucoup la plateforme Ataboula. Je sais pas si tu connais.
Oui, je connais. Ils ont un podcast d'ailleurs aussi.
Oui, exactement. Ils font des podcasts également, mais je suis abonnée depuis longtemps maintenant. Et ça m'inspire assez parce que c'est vrai que c'est les tendances du moment. Et puis, ils apportent un aspect quand même assez critique à tout ce qui se passe. Et ça touche vraiment tout le domaine de l'hôtellerie-restauration, pas seulement la cuisine, mais aussi voilà, les gestions, le pourquoi, le comment. C'est vrai que je me sers de tout ça pour me renseigner au maximum sur ce qui se passe et en faire après mon propre avis et de ce que j'ai envie de faire et de devenir. Donc voilà, mais sinon, forcément, derrière Instagram, je suis beaucoup Instagram et j'aime beaucoup voilà, voir un peu tout ce qui s'y trouve.
Pour découvrir et s'inspirer.
Ouais, exactement.
Notamment au niveau culinaire, voilà. C'est vrai que là, le développement sur Instagram, c'est énorme. Hein.
Ouais, c'est vrai qu'Instagram, c'est l'outil marketing primordial, entre guillemets, pour les restaurateurs. Il faut, pour se développer Instagram, pourquoi maintenant au niveau marketing
De plus en plus, c'est vrai que je vous disais, c'est voué à évoluer de plus en plus. Aujourd'hui, les chefs, les restaurateurs passent tous par ça pour essayer de relayer un peu leur image et faire sortir de leur restaurant leur création.
Ouais, complètement. Ah, mais je suis complètement d'accord et c'est...
Alors, j'aimerais bien te poser une petite question pour terminer là-dessus. Qu'est-ce que veut dire pour toi « hospitality » puisque c'est ma question un petit peu phare sur ce podcast. Donc, je te laisse la parole pour nous donner le sens que tu lui donnes.
Pour moi, je dirais que c'est synonyme de convivialité. Enfin, du moins, c'est comme ça que je le vois. C'est recevoir et savoir recevoir. Le sens du service, quoi. je sais pas trop comment expliquer ça, mais pour moi, ce serait avoir le sens du service et puis recevoir une personne dans cet esprit de convivialité, de partage.
Autour d'une belle table.
Ouais, autour d'une belle table, encore une fois, avec des beaux canons, une belle nourriture et une bonne ambiance, de bons copains.
Non, mais c'était intéressant pour moi de connaître la définition que, en cuisine, on pouvait avoir de ce mot-là, parce que c'est vrai que moi, je l'ai plus dans le sens
ah oui, forcément.
La réception, le service en salle, voilà, recevoir quelqu'un. Mais c'est vrai que bah, en cuisine, on a un tout autre, on a une toute autre fenêtre finalement de l'hospitality. Mmh. C'est vraiment faire passer quelque chose par l'assiette, par le plat. Et je pense exactement. Que bah, vous arrivez à merveille.
C'est aussi ouais, une expérience. Quoi. Hospitality, c'est aussi en fonction de où on va, ben. Être reçu et s'en souvenir, donc vivre une expérience.
C'est ça, faire en sorte que la personne s'en souvienne et se rappelle d'un moment un peu exceptionnel.
Exactement.
Émilie, où est-ce qu'on peut te retrouver, peut-être sur les réseaux, si on veut te contacter, te joindre, et puis peut-être échanger par rapport à toutes ces belles valeurs que tu véhicules ?
Eh ben, sur mon Instagram, qui s'appelle Émilie Cristofari, tout attaché.
Et qu'est-ce que tu dirais à d'autres qui veulent suivre le même parcours que toi ou du moins qui voilà, sont déjà dans un processus culinaire plus ou moins avancé et qui ont envie de devenir encore plus professionnels et qui veulent peut-être rejoindre le genre de parcours que tu as pu faire ?
Non, je dirais simplement que déjà, il faut savoir ce que c'est que si on s'aventure dans un domaine, il faut d'abord, je pense... voilà, savoir dans quoi on s'y aventure, un domaine qui est quand même pas facile, faut le rappeler. Et simplement, s'accrocher, enfin, juste, voilà, c'est un peu bateau, mais bon, c'est simplement, faire à fond et se dire que, dans ce domaine, on apprend toute sa vie, par n'importe qui. Et que la personne qu'on peut croiser aujourd'hui, ça peut être le grand demain. Et du coup, prendre de tout le monde. Surtout moi je pense que voilà, si vous voulez avoir une soif d'apprendre, je pense que c'est très important, surtout dans ce métier
où, d'accord avec toi.
Où voilà, c'est on s'est rempli de connaissances et on est rempli on est entouré de personnes qui peuvent nous apporter énormément.
Oui, et pas hésiter à se renseigner et à découvrir au quotidien.
Je pense aussi se faire son propre caractère et sa propre vision des choses, sa propre pensée par rapport à tout ça. Et voilà, avoir aussi, je suis un petit côté féministe, mais c'est dire aux filles, surtout, ayez du caractère en cuisine, quoi. Vous ne vous laissez pas faire, imposez vos idées, et puis, c'est ce que j'essaie même de mettre un peu en pratique, quoi. Aller au bout des choses, pas baisser les bras et s'accrocher quoi qu'il arrive, parce que c'est pas facile, parce qu'il y aura des moments pas faciles, il y aura des moments chouettes, mais voilà, comme dans tout métier, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que la restauration, il faut un peu connaître pour avant d'y aller, je pense, juste connaître que c'est qu'on n'a pas tout sur un plateau servi comme ça dans ce métier, que tout se mérite et qu'on va rencontrer des gens qui sont très durs et qui nous apporteront beaucoup, et comme des gens qui seront très doux et qui nous rapporteront aussi beaucoup.
Écoute, sur ces belles paroles que je te remercie d'avoir prononcées, parce que ça fait du bien d'entendre des choses comme ça, je te remercie beaucoup en tout cas pour le temps que tu as pu passer avec moi à nous partager ces belles expériences, parce que franchement, tu as un parcours qui déjà est prometteur, je pense. On sera nombreux, à mon avis, à le penser. Donc, merci beaucoup pour ce temps-là.
Ben c'est moi qui te remercie, surtout pour ces belles initiatives de podcasts qui, en période de confinement, sont très agréables à écouter. Et puis, j'espère aussi à toi un très beau parcours par la suite.
Un grand merci à toi. Un grand, grand merci pour être parvenu jusqu'ici. Si c'est le cas, c'est qu'à mon avis, l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant quelques étoiles sur iTunes. C'est une mini contribution gratuite de votre part qui permet grand développement au podcast. N'hésitez pas non plus à en parler massivement autour de vous. Pour vous tenir au courant de toute mon actualité, abonnez-vous sur Instagram @esprithospitality. À très bientôt !